Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Et bonjour à tous, nous sommes le mercredi 9 avril et c'est donc Cinérama sur Divergence comme toujours. Aujourd'hui, je suis en tête-à-tête avec Vincent, Manu n'étant pas là. Bonjour Vincent.
Bonjour Marine.
Enfin, rebonjour. De quoi allons-nous parler ?
Eh bien, moi, je vais vous parler du dernier film pour ados, Divergente, de Neil Burger, on dirait en français, mais en américain, on va dire Burger. Et donc, ça pourrait prendre une ampleur, c'est sous la même forme que Hunger Games. C'était en avant-première hier. Et puis, on écoutera aussi une interview de Walter Salles que j'avais rencontré il y a un an pendant le festival Itinérance d'Alès. J'avais toujours pas monté l'interview. Il nous parlera de road movie parce qu'il en a quand même fait 4. Donc, c'est un sujet qui l'intéresse.
Tout à fait. Et moi, je vous parlerai de deux films fortement sponsorisés par l'UMP. On ne dirait pas comme ça à première vue, mais je vous expliquerai pourquoi. Il s'agit donc de la crème, le dernier Kim Chapiron et Noé, le dernier Darren Aronofsky. Et puis, il y aura bien évidemment l'agenda en fin d'émission. Et on commence tout de suite avec la crème de la crème, c'est Cinérama.
Cinérama, Cinérama sur Divergence FM.
Fraîchement débarqué à HEC, Kélia, Louis et Dan découvrent un monde où le plus important n'est pas d'obtenir de bonnes notes en classe, mais bien la famille d'où l'on vient et celle que l'on se crée à force de soirées arrosées au sein de la crème de la jeunesse française. Les trois étudiants ont bien appris leurs cours et lu leur manuel d'économie, mais en revanche, ce ne sont pas les plus populaires de l'école. Qu'à cela ne tienne, ils vont appliquer les lois du marché à leur vie sociale et amoureuse, puisque tout est régi par l'offre et la demande. Ils vont d'abord tester ce principe sur leur pote, Jafar, qui n'a pour le moment de relations sexuelles qu'avec sa télé 3D. Afin de faire grimper sa cote auprès des nanas de l'école, il suffira de le voir afficher à son bras une jolie fille, le rendant immédiatement plus attrayant auprès de la gente féminine. Et pour cela, rien de plus simple, il s'agira tout simplement d'en louer une, en allant la chercher là où on a besoin d'argent, évidemment, chez les pauvres.
Vous avez intégré la meilleure business school d'Europe et vous avez le droit d'en être fier.
Moi, c'est Jafar.
Il a la dalle, ton copain. Pourtant, c'est pas des filles qui manquent ici.
Ah, mais c'est pas un problème de filles, hein. Y a des critères précis. Tu vois en vert, là, c'est l'association de rugby. Et là, en rose, c'est le BDE, c'est le bureau des élèves.
Suffit de rentrer dans un club pour baiser ? Avec toutes ces filles, il y a forcément moyen.
Non, mais c'est pas une question de nombre. On est sur un marché.
Mais de quel marché tu parles, là ?
Du marché sexuel, quoi. En gros, tu fais venir une fille comme ça à une soirée de l'école, tu la fais flirter avec Jafar, et le lendemain, théoriquement, il peut coucher avec n'importe quelle fille potable sur le campus.
Cette histoire, c'est une occasion de devenir pote avec tout le monde ici, de te faire un réseau.
Kélia achète, enfin recrute.
Je peux te dire un truc, le premier truc c'est que t'es belle.
Et moi je vends. C'est pas une question de savoir si t'es capable ou non de coucher avec une fille gratuitement. Hein. Vous amuser, c'est donnant-donnant.
Tu vas voir un monde que t'as jamais vu et que t'aurais jamais dû voir. La crème de la crème.
Quoi comme genre de fille ?
Bah je sais pas moi, t'aimes quoi ?
Tout.
Bah on a tout.
Les filles de l'école nous ont balancé. Franchement, c'était pas ça qu'on avait prévu au départ.
Et il se passe quoi si nos noms sortent sur Internet ?
C'est un peu chaud pour vous, franchement.
Sans doute, trop vite estampillé cinéaste d'une génération, Kim Chapiron, à qui l'on doit notamment Chetan et Dog Pound, rate...
Bravo.
Pardon, j'ai beaucoup aimé ce lapsus. Rate son coup. Ce n'est pas sa réalisation qui est en cause, puisque la mise en scène, moins trash que dans ses précédents films, mais plutôt inspirée, demeure parfaitement respectable, mais plus l'angle de vue selon lequel est traité le propos du film. On ne peut décemment pas parler de la future élite française et de l'obsession de l'argent qui gangrène la société en se plaçant à ce point du mauvais côté. Pas sûr que Chapiron ait consciemment opté pour ce point de vue, mais il s'avère évident qu'il est totalement fasciné par ce qu'il filme et perd ainsi tout sens critique. sa narration, on devient extrêmement malsaine. Dans la crème de la crème, toutes les filles au SMIC sont des putes en puissance. Pas une seule ne refuse de se prostituer lorsqu'on lui propose. Ce sont même elles qui demandent à travailler, comme si le fait de coucher avec des puceaux issus de familles friquées était un honneur pour une fille dans le besoin, et donc forcément vénale. Le cynisme de Chapiron dévie ainsi inexorablement vers une misogynie malaisante et une peinture sociale stéréotypée. À force de filmer chez les riches, il en oublie purement et simplement de montrer l'envers du décor. Les rares scènes mettant en scène les clivages sociaux se résument à des clichés à côté desquels ceux que l'on reprochait à la vie d'Adèle semblent très soft. Ici, on cueille des fraises à Versailles, au milieu d'une famille aristocratique dépeinte comme idyllique, tandis que les banlieusards boivent de la bière devant des matchs de foot et sont des mauvais parents. Chapiron ne parvient pas plus à saisir l'air du temps et ce qui fait la jeunesse d'aujourd'hui, contrairement aux récents Spring Breakers qui avaient excellé dans ce domaine. Il ne suffit pas, pour parler des jeunes de 2014, de les filmer en train de prendre de la MDMA ou d'aligner les scènes de fête, d'ailleurs réalisées par Romain Gavras, dans lesquelles ses potes DJ viennent saluer la plèbe. On a ainsi droit à des apparitions uniquement justifiées par la frime de Kavinsky, Brodinski ou encore des membres de justice. Restent néanmoins les comédiens, charismatiques, mais dont la puissance de jeu n'est pas exploitée à bon escient, puisque le film se termine brutalement au moment où la flamme dramatique commençait enfin à prendre, et la scène finale qui se voudrait poétique et passionnée est pour le coup totalement ratée, voire ridicule. Une scène dont l'intention est de conclure le film en opposant l'amour au cynisme mercantile de ce monde, mais qui insinue quand même que l'amour, c'est surtout possible lorsqu'on appartient à la même classe de grande école et à la même classe sociale tout court. Voilà, donc c'est pas un mauvais film non plus, c'est quand même raté, et c'est vrai que le propos met assez mal à l'aise en fait. Donc c'est à voir au Gaumont Multiplex et au Diago, je ne suis pas sûr, je ne sais pas.
Moi non plus, je suis pas sûr. Et c'est étonnant qu'il ait demandé à Brodinski, Kavinsky et tout cela de venir pour mettre du Michel Sardou en fait. Parce
que alors oui, il y a entendu. Non, la première scène en fait démarre sur du Justice. D'ailleurs, il y a un petit souci parce que en fait, ce son de Justice est sorti en 2006, là censé se passer en 2014, donc en fait il est même pas au point au niveau de sa bande son en fait.
Oh, il a 8 ans de retard.
C'est un détail, c'est un détail. Mais pour un film générationnel, c'est un petit peu complexe. Enfin bref, voilà. Donc pas forcément à voir. On continue avec Divergente.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Divergent de Neil Burger, qui avait fait notamment Limitless. C'est le blockbuster du moment, le film pour ados attendu. Aussi et surtout par les studios qu'ils produisent, vu qu'ils ont produit le mièvre Twilight et le plutôt réussi Hunger Games, mais que les deux ont cartonné. Alors, comme il s'agit d'une trilogie, il est bien question d'étirer le propos pour en faire une suite bien rentable et agréable pour le spectateur. Alors, le cinéma a déjà donné dans la divergence mentale. Je ne sais pas si tu te souviens de cette séquence, Marine.
Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Pourtant, bien que tout soit totalement convaincant, et même si cela me semble réel en tout point, le fait est que Ogo est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. De cette manière, j'échappe à certaines réalités innommables qui me rendent la vie impossible ici. Quand je cesserai d'aller là-bas, je serai guéri. Est-ce que toi aussi tu es divergent, frère ?
Je pense qu'il faut s'en servir pour un jingle.
C'est déjà fait. C'est déjà fait sur Divergence. Donc c'est l'armée des 12 singes. C'est à ce moment-là quand Bruce Willis est dans l'hôpital psychiatrique. Donc rien à voir avec Divergente, le blockbuster. Comme pour Hunger Games où les districts sont soumis à une règle leur enlevant tout libre arbitre, celle de livrer pour des raisons politiques deux des leurs pour le Hunger Games. Dans le monde de Divergente, c'est un peu plus complexe. C'est un monde post-apocalyptique et pour maintenir la paix derrière un grand mur enserrant Chicago, un système politique est mis en place où chacun doit choisir sa catégorie selon une sorte de test. Alors, soit vous êtes fraternel et vous êtes toujours content de travailler dans les champs, soit vous êtes érudit et vous savez tout sur tout, soit vous êtes altruiste et vous vous habillez en guenilles et vous aidez autrui, soit vous êtes sincère et vous êtes dans la loi, ou encore vous êtes audacieux et vous rejoignez les rangs de la police en étant toujours à 100 à l'heure. À côté de vous, les autres ont l'air apathiques sous Tranxène. Les altruistes qui gouvernent ce monde sont d'ailleurs appelés les Petsec, tout est dit. L'héroïne Carrie en faut une dans une saga d'ado, eh bien c'est Triss, et elle, eh bien elle est divergente.
Il y a 100 ans, Nos anciens créèrent un système censé préserver une paix éternelle. Ils divisèrent la société en 5 factions.
Nous ne serons à même de survivre que si chacun de vous occupe la place qui lui revient.
Chacun est soumis à un test pour déterminer qui il est et quel est son rôle.
Les résultats n'ont pas été décisifs.
C'est impossible.
Ça n'a rien d'impossible, c'est seulement extrêmement rare. Tu as le pouvoir de conquérir et de vaincre tes peurs. Tu es une divergente.
Les divergents menacent le système. Pour notre sécurité, nous devons les éliminer.
Elle va me tuer.
Il faut que nous soyons prêts à tout.
Le monde change. À toi de décider à qui tu es loyal.
Toute ma vie, j'ai obéi à vos règles. C'est terminé.
Bizarrement ou pas, Shailene Woodley, qui incarne la Divergente, a des allures de Jennifer Lawrence. Hein, on ne change pas une physionomie qui gagne. Une fois posé ce monde qui n'est pas sans poser de questions, il ne reste plus qu'à suivre le choix de Triss, sachant qu'on doit fidélité à son clan, plus qu'au lien du sang. Comment va survivre une Divergente à l'intérieur donc du clan ? Sachant qu'un des clans veut prendre le pouvoir en empêchant l'individu d'user de son libre arbitre et en rejetant les divergents qui ont un gros défaut, ils sont incontrôlables par l'esprit. Alors amitié, intrigue, politique, piège, choix à faire, bravoure, trahison et amour, tout y passe pendant 2h30 quasiment, où la salle ne moufte pas. Divergente n'est pas un film raté, hein, mais un peu décevant, un brin, si on le compare à Hunger Games notamment. Tellement on a l'impression qu'il applique la même recette mais avec un monde politique qui exagère le nôtre et où chaque spectateur va pouvoir s'identifier une caste, celle que choisira l'héroïne est assurément la plus fun mais seulement en apparence. La mise en scène n'est pas renversante, la musique prise dans les standards des chansons d'ado surligne, la caméra virevolte, les effets spéciaux, essentiellement les décors ne sont pas renversants non plus, mais l'ensemble est plutôt propre. Il y a quelques bastons, mais rien de bien chorégraphié. C'est vraiment le service minimum et parfois le ridicule. Hein. On passe sur l'histoire d'amour entre la jeune femme de 16 ans et le militaire instructeur de 10 ans son aîné, mais un peu moins sur les rebondissements qui en découlent. Voilà. Alors après, les adolescents ont peut-être un cerveau hein, pour apprécier ces simplifications à tout va. Mais je pense pas que ça puisse avoir le succès d'Hunger Games. En tout cas, ça n'a pas du tout le même rythme. Et là, c'est un peu plus bourrin, j'ai presque envie de dire. Et le monde est pas si intéressant que ça. Voilà. L'Uchronie, comme ils disent. On passe à Walter Salles maintenant. Alors préciser que ça sort aujourd'hui et que la salle était pleine hier lors de l'avant-première au Gaumont.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Sur Divergence FM.
Walter Salles, le réalisateur brésilien qui parle un français impeccable parce qu'il était fils de diplomate. Eh bien, on va l'écouter parler du road movie, un genre qu'il affectionne tout particulièrement puisqu'il a fait 4 films là-dessus.
Madame, vous ne devriez pas laisser votre fils conduire si vite avec ce temps. Tu es dans mon état. Tu ralentis.
Walter Salles, vous avez, suite à une rencontre, je crois, dans un festival, celui de Thessalonique, oui. Vous avez donc, avec Wim Wenders, parlé du road movie, et c'est évidemment un genre qui est très présent dans votre filmographie. Il y a au moins 4 films hein, qu'on pourrait citer, voilà, et le dernier étant Sur la route. Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre cinématographique ?
Bien, puisqu'on parle de Wenders, hein, il dit que quand on s'éloigne du point de départ, on comprend un peu mieux qui on est. Donc d'un point de vue existentiel, il y a déjà dans le road movie et dans l'idée du mouvement quelque chose qui est de la nature du dévoilement de l'identité. Donc je pense que c'est une des raisons. Mais l'autre est liée au fait que je suis brésilien et que le Brésil est un pays d'immigration. Donc constamment, il y a des vagues d'immigrants qui ont voyagé pour arriver dans ce nouveau pays. Et il y a beaucoup d'immigration interne également. Le road movie est une forme d'expression cinématographique très présente dans l'histoire du cinéma brésilien. Des films comme Bye Bye Brasil de Carlos Diegues ont été très marquants dans ma jeunesse. Et je pense que c'est une forme assez unique de montrer une géographie physique et humaine en transformation, donc l'âme même d'un pays. Plusieurs réalisateurs choisissent cette forme d'expression au Brésil, c'est que elle nous permet de montrer un reflet d'un pays en transformation constante, c'est-à-dire d'un pays dont l'identité n'est pas encore pleinement cristallisée.
Vous avez quel âge, mademoiselle ?
J'ai 18 ans.
C'est qui le gars avec qui vous êtes ?
C'est mon mari. J'ai le certificat à l'arrière, si vous voulez vérifier.
Et qui vous êtes si pressé d'aller retrouver en Californie ?
Ma femme.
Votre femme ? Cette fille-là vient de dire qu'elle était votre femme.
C'est mon ex-femme.
Qu'est-ce que vous fricotez avec votre ex-femme si vous allez voir votre femme ?
Ça n'a pas d'importance.
Non mais tu te fiches de qui, là ? Tu crois que tu peux tradiner ici et me dire ce qu'il y a de l'importance ?
Donc ça supposerait que finalement le road movie...
Alors, je me coupe moi-même, c'est voilà. Un plaisir. Et tout simplement parce que, bien là, on va faire un petit teasing, hein, donc là, c'était la première question. Il y a aussi deux autres questions, on est allé un peu plus loin sur le road movie, mais on écoutera ça plutôt la semaine prochaine, parce qu'on a un super copieux.
Voilà. Et du coup, nous allons passer tout de suite à Noé de Darren Aronofsky.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Alors Darren Aronofsky, eh bien, c'était avant tout le réalisateur qui, pour son premier film, Pi, avait osé un thriller mathématique inspiré de Tetsuo dans un noir et blanc torturé. Ce fut ensuite celui qui réalisa Requiem for a Dream, film sur les addictions devenu culte, et remettant au goût du jour quatre acteurs totalement laissés pour compte à cette époque dans l'industrie hollywoodienne. Jared Leto, qui sortait de la série Angela 15 ans, maintenant il ne fait plus un film sans être nominé à l'Oscar, hein. Jennifer Connelly, qui n'avait eu que des rôles topless dans les années 90, Ellen Burstyn, la mère de l'exorciste, qui n'avait plus rien fait de notable depuis le film de Friedkin, et Marlon Wayans, qui n'avait aucune crédibilité dramatique puisque son CV ne comportait que la série des Scary Movie. Aronofsky leur offrira donc à chacun un rôle dans ce quatuor de personnages rongés par les drogues et en relançant leur carrière, lancera définitivement la sienne. Il a alors suffisamment la confiance des producteurs pour pouvoir financer un projet titanesque et audacieux se déroulant sur trois époques différentes, The Fountain. Sublime ou ridicule, selon les points de vue, cette odyssée New Age autour de l'amour, la mort et la résurrection ne trouvera pas son public, mais sera une avancée décisive pour le réalisateur qui dès lors sera en mesure de monter des projets personnels cumulant gros budget et casting de stars. The Wrestler, un rise and fall crépusculaire sur une vieille gloire du catch ressuscitant un Mickey Rourke, transfiguré par la dimension autobiographique du sujet, poursuit dans cette veine, tandis que son cinquième film, Black Swan, son œuvre la plus aboutie et la plus récompensée, sera conciliée succès critique et succès en salle, alliant à la perfection obsession personnelle, esthétique travaillée et performance d'acteur Nathalie Portman en tête. Cette fois, le projet s'avérait encore plus ambitieux, puisqu'il s'agissait de remettre à flot le vieux mythe de l'Arche de Noé. Aronofsky embarqué sur son bateau Russell Crowe dans le rôle titre, retrouvé 10 ans après Requiem for a Dream, Jennifer Connelly qui jouerait l'épouse de Noé, ainsi que Emma Watson et Anthony Hopkins. L'histoire reprend le mythe initial, celui de l'Arche construit par Noé pour sauver les espèces animales de la terre du déluge.
Noé, qu'est-ce qu'il a dit ?
Il va détruire le monde. Cela ne peut-il être évité ?
L'homme a corrompu ce monde. Il l'a empli de violence. Nous devons disparaître. Un grand déluge approche. Nous allons construire une arche pour recueillir les innocents.
Mère ! Qu'est-ce qu'il y a ? Là !
Qu'est-ce que tu veux ?
Tu pensais vraiment que tu pouvais te protéger de moi là-dedans ?
Ce n'est pas de toi que cela protège.
J'ai des hommes avec moi. Et toi, tu es seul et tu me défies ?
Je ne suis pas seul.
On aurait aimé des propositions formelles fortes comme celle de ses premiers films ou une vision ésotérique du monde un peu surprenante comme celle de The Fountain. Il n'en est rien. Dès les premières scènes, on comprend que le film sera un supplice et que nous serons des martyrs. Pendant les 2h30 qu'il dure, mélange douteux du Seigneur des Anneaux pour les décors dont Noé s'inspire clairement, de péplum mou de Tree of Life pour le discours mystico-chiant et le scénario basé autour de la famille, Noé ne sait trop sur quel pied danser et perd le spectateur dès les premières minutes, en mélangeant cours de catéchisme, créatures mythologiques numériques et robots tout droit sortis de Transformers. Les seules bonnes idées visuelles du film ne sont pas vraiment des coups de génie, puisque Aronofsky reprend le montage cut et épileptique appuyé par des déformations sonores qu'il avait initiées dans les scènes de prise de drogue de Requiem for a Dream, ou qu'il pompe allègrement Michel Oslo avec des scènes en ombre chinoise qui seraient les seules belles idées graphiques du film, si encore elles étaient vraiment de lui. Quant au fond de l'histoire, bah on se demande assez vite si tout cela n'a pas été sponsorisé par la Manif pour tous et coécrit par Frigide Barjot. Le film n'a de cesse de répéter qu'un homme va avec une femme, car seul compte le fait de faire perdurer la création. Une femme n'est une vraie femme que si elle peut procréer, sinon elle est une épouse inutile. Et un homme ne peut devenir un homme qu'une fois qu'il s'est marié. Les habitants des cités de Caïn, supposés représenter le mal absolu, sont des mangeurs de viande et des fornicateurs, tandis que les gentils, eux, n'ont de rapport sexuel que pour procréer et se nourrissent de baies sauvages.
Ils seront prêts à tout et ils seront nombreux.
Les serpents viennent aussi ?
Tout ce qui rampe, tout ce qui glisse.
Il t'a choisi pour une raison, Noé.
Prenez l'arche !
La décision est entre tes mains, Noé.
Ça commence.
Oui, ça commence à durer beaucoup trop longtemps d'ailleurs. On ne pourra pas faire la liste, même si ça fait 30 ans, des innombrables aberrations de cette histoire visiblement écrite par des intégristes catholiques végétariens ayant fumé la Bible. Noé et sa famille font monter toutes les espèces animales dans l'arche hein, et puis ils les endorment avec une fumée narcotique qui plonge tous les animaux dans le sommeil en 5 minutes et ils ne se réveillent pas pendant des semaines et des semaines. Donc les ours cohabitent avec les oiseaux, avec les serpents.
Mais ça a toujours été une interrogation pour moi,
oui,
cette histoire.
Oui. Alors là, tu ne trouveras aucune réponse.
Ah bah, c'est une forme de réponse quand même, ça me fait plaisir.
Pas forcément crédible, mais en effet, c'en est une. Alors de même qu'on exalte les valeurs de la famille, mais alors l'arrière-grand-père, joué par Anthony Hopkins, est laissé dans sa grotte, dans la montagne, tandis que la famille vit dans une cabane. Voilà, il y a le grand-père qui vit dans sa grotte tout seul, personne ne
sage,
s'en occupe. Mais personne ne s'en occupe, on ne sait pas comment il mange.
Des baies
et il mange peut-être des baies. Et puis alors le sage également bah, ne prend pas une ride de plus, alors que les enfants passent de 8 ans à 18 ans. Lui ne vieillit pas, ne meurt pas, il est toujours là. On a également envie de rire à l'écoute des dialogues complètement improbables qui alternent prophétie et morale à deux balles. Mais tout le film se prend très au sérieux et vous noie sous un déluge de bondieuseries mal déguisées en film d'aventure. On aimerait se dire bah, qu'on a devant soi un film de producteur charcuté par les studios, dirigé par l'appât du gain, dicté par les ardeurs chrétiennes d'un Hollywood qui est pieux quand ça arrange ses finances. Mais non, Darren Aronofsky l'assure, ce que vous verrez est bien le director's cut et la version initiale tournée par son auteur. Tout cela est d'autant plus navrant que l'on est forcé de regarder à présent sa filmographie bah, d'un autre œil et on serait tenté d'y voir un sous-texte moralisateur et religieux qui ne nous apparaissait pas avant. Et j'irais même plus loin, c'est non seulement un mauvais film, car doté d'une réalisation vraiment ratée et poussive, d'une direction d'acteurs ratée et d'effets spéciaux foireux, mais c'est même carrément un film dangereux qui véhicule une idéologie totalement rétrograde, intolérante, et qui essaye de nous inculquer des idées sous couvert de divertissement hollywoodien. Enfin voilà, dommage qu'ils aient pas mis des bénitiers pour vomir dedans à la sortie du film, parce que vraiment c'est tout ce que ça inspire. D'ailleurs je suis pas restée jusqu'à la fin, alors je veux dire que probablement le côté visuel et esthétique était sans doute beaucoup plus réussi justement à partir du déluge, etc. Mais au bout d'une heure, on n'en peut plus. Je suis partie au moment où ça commençait. Mmh. Ça y est, ça a commencé, je n'ai pas tenu, vraiment c'était assez insoutenable. Bien c'est à voir, je l'ai en plus vu en VF, alors ce qui n'a rien arrangé. Alors,
il existe une version originale sous-titrée au Gaumont Comédie.
Voilà, sinon bien c'est à voir au Gaumont Multiplex, donc dans sa version française. Ou à ne pas voir. Et
bah, tu vois bien, en fait, on avait le choix. Il y avait deux avant-premières hier. Il y avait
Divergente
et
ou Noé.
Tu as voulu prendre Noé, alors que moi, j'étais bien partant pour voir Noé.
Et oui, malheureusement, j'ai été induite en erreur par le nom de Darren Aronofsky. On ne m'y reprendra plus. Et on va maintenant en terminer avec l'agenda. C'est toujours Cinérama.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Un gros agenda cette semaine. On commence demain, jeudi 10 avril, avec l'avant-première du nouveau film de Lisa Azuelos, Une rencontre à 20h15 au Gaumont Multiplex. C'est avec Sophie Marceau et François Cluzet. Ce sera en présence de l'équipe du film. Toujours demain, jeudi, à 14h30 et à 20h à l'Utopia, deux projections exceptionnelles du documentaire L'aventure du jazz, suivi de rencontres avec le réalisateur Louis Panassier et présenté en partenariat avec le festival Jazz à Junas. Vendredi 11 avril, au Gaumont, une autre avant-première au Gaumont Multiplex, celle de Need for Speed, avec Aaron Paul, le comédien de Breaking Bad. L'équipe du film, en revanche, ne sera pas là, hein, mais il y aura des animations, des cadeaux à gagner apparemment, et c'est à 20h30. Vendredi toujours, une soirée débat, la soirée ciné-attaque avec la projection de Démocratie Zéro. C'est au Ciné Mistral de Frontignan, c'est en présence du réalisateur Michel Tosque à 21h. La soirée sera animée par le groupe Attaque de 7 bassins de Thau. Samedi 12 avril à 18h10, au Diagonale, The Debut de Andy Kolb, un film documentaire. Ce sera projeté, oui, voilà, pardon, je l'ai déjà dit, à 18h10. C'est un film entièrement consacré au wakeboard. Voilà, et il y aura notamment des champions de wakeboard qui viendront en parler. C'est une séance unique en France organisée par l'association Palawan Fun Club Vague et Vent.
Il n'y a que du wakeboard, sérieux.
Voilà, des riders seront présents pour parler de leur passion et échanger avec le public. Ça change au Diago, mais écoutez, pourquoi pas une expérience à vivre. En plus, au tarif unique de 5€. Dimanche 13 avril à 11h, faudra se lever trop tôt, l'avant-première du dernier film de Patrice Lecomte, Une promesse. Dimanche toujours à 18h05, cette fois dans le cadre du cycle de cinéma latino-américain 2014, l'avant-première de L'été des poissons volants de Marcella Saïd, une séance suivie de débats avec la réalisatrice et le collectif Alba Amérique Latine. Toujours le 13 avril, mais à 10h30, en présence des réalisateurs, le documentaire Montpellier, place de la com, ça c'est à l'Utopia. Et comme d'habitude, dans le cadre de ces séances qui se passent le dimanche matin, l'ouverture des portes se fait à 9h45, c'est un petit déjeuner participatif. Vous amenez les croissants, les pains au chocolat et l'Utopia fournit les boissons, le thé et le café. Le lundi 14 avril à 13h40, Deep End au Diagonale de Jerzy Skolimowski, un très bon film d'ailleurs que je recommande si vous ne l'avez pas vu, une séance unique dans le cadre du partenariat avec l'Université du Tiers-Temps. Lundi, toujours 14 avril, toujours au Diagonale à 18h, dans le cadre de Hybride 6, War Photographeur de Christian Fay. Ce sera une séance suivie de débat avec Benoît Califano, directeur de l'École supérieure de journalisme de Montpellier, et Edith Bouvier, une journaliste, une reporter de guerre en fait, blessée en Syrie. La séance est au tarif unique de 5€. Et pour finir, cet agenda vraiment qui n'en finit pas.
Très copieux.
Le mardi 15 avril, toujours au Diagonale à 20h05 et toujours dans le cadre du cycle du cinéma latino-américain 2014, l'avant-première Les drôles de poisson-chat de Claudia Santluce. Une séance suivie d'un débat avec la réalisatrice et avec le collectif Alba Amérique Latine. Et à 17h50, Malazza de Carlos Lechuga, toujours dans le même cadre. Séance également suivie de débat avec le collectif Alba, Amérique latine. Vous avez de quoi faire cette semaine au cinéma.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, Cinérama, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine à 3, il me semble.
Oui. Et ce qu'on pourra retenir aujourd'hui, c'est que Karim Chapiron a donc roté un film.
Karim Chapiron, je ne le connais pas pour le moment.
Kim Chapiron. 24 notes secondes sera sur Richard Gere.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.